Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Jérôme Chapuis.
Merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Marc Huard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Jean-Marc Huard.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Tous les élèves de terminale qui ont passé leur bac connaissent leur sort. Il n'y a pas de retardataire. Tout est fini. Définitivement, le CRU, la porte du bac 2018 est fermée maintenant.
Depuis hier, la session est close.
Ah, voilà. Les ordinateurs, vos ordinateurs ont brassé les chiffres. Jean-Marc Huard, est-ce que vous avez le résultat définitif du bac 2018?
Alors aujourd'hui, nous pouvons féliciter 88,3% des candidats qui se sont présentés au baccalauréat. C'est un taux qui est en progression de 0,4 points par rapport à l'année dernière. C'est un taux qui ne bat pas les records, et notamment le record de 2016, mais qui est autour de 88.
88,6. C'était 88,6 en effet. Et on rappelle ce chiffre, 88,3% des élèves de terminale qui ont tenté le bac l'ont dans la poche, si je puis dire, après les ultimes épreuves du rattrapage. En volume, si je puis dire, combien l'ont raté en fait, définitivement?
Alors vous avez, il faudrait que je fasse une soustraction, mais vous avez 675 600 nouveaux bacheliers.
Oui.
Et une satisfaction tout à fait importante, puisque le taux de réussite du baccalauréat professionnel a augmenté de 1,1 point.
C'est la filière qui augmente le plus?
C'est la filière qui augmente le plus. Le taux de réussite en voie générale est de 0,4 points supérieur à celui qu'il était l'année dernière. On marque le pas en série technologique et notamment dans les séries technologiques tertiaires avec une baisse de 1,6 points et donc je l'indiquais, une progression de 1,1 point des résultats au bac professionnel avec 82,6% de réussite. Et ça, c'est une satisfaction.
Oui. Alors, puisqu'on est dans le positif, c'est plutôt ça, je sens bien que vous voulez souligner ce matin. Quelle est la moyenne la plus explosive?
Alors,
la meilleure moyenne?
D'après ce que nous savons, et vous savez, c'est une très grosse machine, et les services de la direction de l'évaluation et de la prospective ont vraiment travaillé pour nous donner tous ces résultats. A priori, la meilleure moyenne, c'est 21,39, donc une moyenne supérieure à 20, et vous savez, le jeu des options permet d'avoir une moyenne plus importante, qui serait dans l'Académie de Limoges, mais tout ça est à confirmer.
Qui serait dans le Limousin, dans l'Académie de Limoges. Bravo à elle ou à lui, je ne sais pas, un candidat donc, qui a encore explosé les plafonds. Vous connaissez la phrase de l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, monsieur Huard. Pour ne pas avoir le bac, il faut en faire la demande. C'est grinçant, on peut trouver des variantes d'ailleurs, mais 88,3%, même si ce n'est pas le record, sa phrase n'est pas loin de la réalité, non?
Je crois que le sujet et la réflexion, et je crois que les candidats, il faut à la fois les féliciter, leur dire qu'ils ont réussi un examen qui est difficile et qui est reconnu à l'international. Vous savez qu'on a 91 pays qui proposent le baccalauréat. Non, le baccalauréat, les candidats peuvent le passer dans 91 pays. Donc c'est véritablement une institution. Pour autant, et c'est le sens de la réforme du baccalauréat que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a souhaité, il faut que ce baccalauréat soit encore plus performant pour permettre la réussite dans l'enseignement supérieur.
On va en parler, mais c'est vrai que ça reste un paradoxe dans la vie des Français. Il y a une dramaturgie autour de cet examen. Il y a un stress dans les familles. Il y a une importance, quand même, que revêt effectivement le bac, qui est presque inversement proportionnelle à la difficulté réelle de l'obtenir. Comment vous l'expliquez?
Non, c'est un rite républicain. Nous avons des taux de réussite qui sont effectivement aux alentours de 88-90%.
88,3%, on le rappelle cette année.
C'est ça. Oui. Et nous avons cette année 79,9% d'une génération qui obtient le baccalauréat. On n'est pas à 100%. Donc ça reste un examen important, fondamental pour les jeunes, à la fois pour la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle, mais aussi en tant que rite de passage.
Ma question, c'est aussi, est-ce que ça ne provoque pas trop de stress par rapport à la difficulté réelle? Est-ce que le nouveau bac en 2021, qui ne fera passer plus que, j'espère ne pas me tromper, 4 épreuves terminales écrites. Aujourd'hui, il y en a évidemment beaucoup plus. Est-ce que de ce point de vue, ça va un peu desserrer cet étau du stress?
Je crois qu'en effet, le stress vient au fait aussi de concentrer sur finalement une semaine, 6 jours, des épreuves qui sont l'aboutissement de toute une scolarité. Et c'est pour cela que dans le bac 2021, qui va être proposé aux élèves qui rentrent en seconde l'année prochaine, il y a une part de contrôle continu qui va représenter c'est 40% de la note finale et 60% qui va reposer sur des épreuves terminales, dont un grand oral, parce que les compétences orales pour la suite des études, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose que les Français, que les jeunes Français ne maîtrisent pas totalement. Et donc l'école doit accompagner autour de ces compétences et le grand oral sera le point d'orgue, en quelque sorte, de l'épreuve.
Je parlais de dramaturgie, ce grand oral sans doute provoquera à nouveau une forme de dramaturgie particulière pour ce rite républicain. Est-ce que cette future réorganisation du bac, Jean-Marc Huard, aura un impact sur le calendrier des terminales? Vous savez qu'aujourd'hui, les cours cessent début juin pour les terminales, mais du coup, les profs et les classes sont réquisitionnés pour les épreuves. Les autres niveaux, seconde, première, sont impactés. Ce troisième trimestre au lycée, il est fictif. Est-ce que ça va changer aussi?
On a effectivement une situation qui n'est pas, qui ne peut pas perdurer ainsi. Ça fait 10 ans qu'on parle de reconquête du mois de juin, puisque effectivement, les lycées ont fermé autour du 10-13 juin cette année. Les conseils de classe ont lieu fin mai ou début juin. Et donc, on doit aux élèves de seconde, de première terminale, au collège avec le diplôme national du brevet, les collèges ferment également quelques jours avant les épreuves. Donc, on doit à tous ces élèves le temps d'études et d'apprentissage qui est celui du mois de juin. Donc, inévitablement, on va avoir une année scolaire qui va se terminer plus tard grâce à ces épreuves.
Ouais. Un mot au passage du calendrier scolaire, pardon, plus globalement. Jean-Marc Blanquer l'avait dit lui-même, c'est trop long. Et là, il parlait des vacances, notamment les vacances scolaires. Or, il n'y a pas touché depuis qu'il est au ministère. Il a changé d'avis ?
Alors, on a passé hier au Conseil Jean-Michel Blanquer. On a hier passé au Conseil supérieur de l'éducation le calendrier 2019-2020 des vacances scolaires, ce qui est un exercice toujours difficile, l'organisation du calendrier scolaire. 2019-2020, qui est un calendrier scolaire qui est organisé encore à peu près sur le modèle de celui d'aujourd'hui. J'ai indiqué qu'inévitablement, avec l'organisation des épreuves à la fin du mois de juin, on allait très tranquillement regarder les choses. On va pas, je ne sais pas du tout quelles seront les conséquences de cela, mais il faut en tout cas s'interroger. Le lien également entre le baccalauréat et Parcoursup est un point important. Les notes du baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur l'ont dit, les notes des épreuves terminales doivent compter également dans Parcoursup. Donc ça implique inévitablement un calendrier des épreuves qui est modifié.
Vous y allez tout doucement. Le préalable, c'est quoi ? C'est aussi la réorganisation dans la journée. Quand on voit que nos voisins allemands et anglais, qu'on cite très souvent sur le calendrier scolaire parce qu'ils ont des vacances d'été plus courtes, effectivement, mieux équilibrées dans l'année, c'est aussi parce qu'ils ont une organisation de journée qui est moins lourde. C'est ça le préalable à une révolution du calendrier scolaire français ?
Écoutez, nous verrons. L'entrée, elle est, encore une fois, au travers de l'organisation nouvelle de l'examen et le fait qu'il y ait d'une part du contrôle continu, qu'il y ait des épreuves terminales sur les enseignements de spécialité qui vont se passer autour des vacances de printemps, et puis deux épreuves, une épreuve de philosophie et un grand oral à la fin de l'année.
C'est un chantier qui sera amorcé avant la fin du quinquennat ?
Le baccalauréat, la réforme du baccalauréat, ouais. C'est 2021.
Et c'est donc corollé à cette réforme, nous dites-vous. D'ailleurs, hier, il y a eu un Conseil supérieur de l'éducation qui réunit tous les acteurs de l'éducation au ministère, les parents, les enseignants, vous évidemment, les représentants du ministère. Ça ne s'est pas très bien passé, les syndicats ont claqué la porte. C'était à propos de quoi ?
Hier, nous examinions les aménagements de programme de l'école primaire et du collège, notamment en français, mathématiques, enseignement moral et civique. Le ministre de l'Éducation a souhaité que les programmes scolaires soient à la fois plus clairs et soient aussi recentrés autour de ces disciplines, français, mathématiques, mais autour des fondamentaux.
On l'accuse d'autoritarisme. Il l'a souhaité, il le fait sans concertation.
On est véritablement, alors je crois sincèrement sur l'absence de concertation, je crois que l'ensemble des réformes qui ont été menées toute cette année, on parlait à l'instant de la réforme du baccalauréat, a mené à une concertation, une consultation d'abord, et une concertation extrêmement importante. On est là, sur les programmes scolaires, dans un dispositif qui est un dispositif normal. Le ministre a saisi, en début d'année civile, la présidente du Conseil supérieur des programmes. Le Conseil supérieur des programmes, dans le cadre de ses compétences, a fait des propositions. Nous les avons soumises aux organisations, et d'ailleurs, nous avons discuté avec des organisations qui nous ont fait des propositions permettant d'amender les programmes.
Finalement, tout se passe très bien, malgré qu'ils ont claqué la porte, mais Jean-Marc Huert nous dit que tout va bien. Un dernier mot très vite sur Parcoursup. Il y a encore 80 000 élèves qui sont en attente, ils vont rester dans l'expectative tout l'été, en quelques mots.
Je crois que Parcoursup, 80 000 élèves effectivement en attente, il y en a plein qui ont eu des propositions, un nombre extrêmement important. Il faut que ces élèves s'inscrivent, et puis il faut que les bacheliers qui sont encore en attente sachent qu'ils sont en phase complémentaire. Ils ont été tous contactés par Parcoursup pour pouvoir rentrer dans le dispositif de phase complémentaire. Et ils peuvent se faire accompagner dans le cadre des commissions. Aujourd'hui, on a 17 000 élèves qui se font accompagner dans le cadre des commissions. L'accompagnement est important, ça se fait maintenant, alors que sous APB, ça se faisait au mois de septembre.
Oui, d'accord, mais ça veut dire que ces élèves auront... une réponse quand, ceux qui sont en attente aujourd'hui, en un mot ?
Ils auront une réponse durant l'été, là, dans les jours
vous
qui viennent,
au fur et à mesure.
Je leur dis qu'il faut qu'ils se...
Et avec l'angoisse de ne pas savoir où ils vont à la rentrée.
Il faut absolument qu'ils rentrent dans la phase complémentaire et il faut qu'ils saisissent les commissions s'ils sont dans l'expectative.
Auprès de qui ?
Et encore une fois, auprès des rectorats.
Auprès des rectorats. Voilà, une réponse pour un petit peu desserrer les taux de l'angoisse, si c'est le cas pour ces élèves. Merci beaucoup d'avoir été avec
Merci
nous,
de
nous avoir donné les résultats définitifs du bac 2018. On le rappelle, 88,3%. Bravo à tous.
Merci beaucoup. Entretien à retrouver sur rtl.fr.